de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeanard, le 30 mai 95.
réaliste, une conception instinctive de l'instinct et de la passion. Que de fait, alors le théologien peut dire ça, que de fait, à cause des conséquences du péché originel, notre sensibilité est beaucoup plus liée à l'aspect sexuel. Ça fait partie du déséquilibre, conséquence du péché originel, où l'aspect sexuel prend plus d'importance, surtout du côté jouissance, que normalement il devrait prendre. Alors c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Mais pour Aristote, le concupiscible passionnel est premièrement un concupiscible qui porte sur le point de vue sensible de la nourriture, de la boisson et de la sensibilité dans l'amour d'amitié. Et le point de vue sexuel porte sur le point de vue des dons des corps au niveau passionnel et au niveau instinctif. Le point de vue sexuel. Pour Aristote, il y a une distinction réelle entre les deux. Et saint Thomas, dans toute sa théologie, respecte cette distinction. Donc la distinction d'Aristote est assumée par Thomas d'Aquin. Et on ne comprend rien, Thomas d'Aquin, si on ne comprend pas ça. Point de vue éducation, c'est très très important d'éduquer d'abord le point de vue passionnel sensible, tendresse, distinct du point de vue sexuel. Donc là, il y a un problème très important et pas commode à résoudre en face de la psychologie freudienne. Aujourd'hui, je crois que la psychologie freudienne a une grosse influence sur toute la psychologie. Parce que je ne crois pas qu'on puisse répondre à Freud uniquement à niveau psychologique. Ça, c'est un autre problème, un problème critique, mais très important pour nous. Ça vaudrait la peine une fois qu'on puisse regarder ça attentivement, mais alors au plan critique. Il y a des distinctions qu'on le psychologue ne peut pas faire. Pourquoi ? Parce que le psychologue reste dans le comment de l'exercice, sans voir le point de vue du TST, de la spécification et de l'analyse. Ça, il faut arriver petit à petit à bien discerner ce qui n'est pas commode et qui est capital. Surtout quand il s'agit de l'affectivité, tu vois ? Ou dans l'affectivité, déjà, le point de vue du comment et du tiesti sont quand même assez mêlés. C'est beaucoup plus que du côté de l'intelligence. La distinction du tiesti et du pose se fait par l'intelligence et pas par l'affectivité. Parce que par l'affectivité, c'est l'exercice lui-même qui me permet de découvrir la bonté de l'autre. Oui, ce que la fumologie dit au point de vue de l'intelligence est vrai d'une certaine manière du côté affectif, alors que c'est faux du côté de l'intelligence. Et là, c'est un problème très grand et très moderne. C'est le problème de la fumologie. On est tous plus ou moins marqués par ça, depuis Kant. Alors, distinguons bien l'amour d'amitié est lié à la sensibilité et assume la sensibilité. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime et j'ai horreur de ta sensibilité ». Quelquefois, non. Parce que la sensibilité est liée à la passion. Et quand on a affaire à quelqu'un très passionné, et que soi-même, on est beaucoup plus à un niveau spirituel, on a envie de dire, allez, abonne les pattes. Et puis, aime vraiment, ne sois pas comme ça, collant, collant. notion d'affectivité sensible. Quand cette éducation n'a pas été faite, on comprend très bien qu'il puisse y avoir. Alors, il faut avoir la patience des saints pour rectifier. Parce que si on est brutal, on ne rectifie pas. Mais vous rectifiez de l'intérieur. Comme toujours, l'amour se rectifie de l'intérieur par l'amour. Alors, il faut saisir que l'amour d'amitié humain, je parle au point de vue humain, au point de vue philosophique, implique la sensibilité. Cette sensibilité est purifiée par le point de vue de l'adoration. Puisque je vois que l'ami, l'autre, a une âme créée par Dieu. Et l'âme est présente dans la sensibilité. C'est notre âme sensible. C'est notre âme qui informe le corps et qui est présente dans la sensibilité. Et la sensibilité est donc purifiée par le point de vue de l'adoration. Et par le fait même, il y a un respect plus grand du corps et de la sensibilité. Et une distinction plus nette entre le point de vue de la sensibilité et tendresse et le point de vue de la sexualité. C'est très étonnant ça, mais c'est normal. Plus vous respectez quelqu'un, plus la sensibilité peut s'exercer d'une manière qui lui soit propre, parce qu'elle est assumée par le point de vue spirituel. Le vrai point de vue spirituel ne détruit pas la sensibilité. On fait tous cette expérience. Au bout de quelques années de vie religieuse, on a une sensibilité plus affinée. Ça, c'est sûr. Quelquefois, justement, elle est très affinée. Elle risque quelquefois, je ne dis pas de l'être trop, mais plus elle est affinée, plus elle exige la présence de l'amour spirituel. Plus l'amour spirituel doit être présent pour permettre ce respect. Et plus la distinction se fait entre le point de vue sexuel et le point de vue sensible. Alors, quand je parle du don des corps, ordinairement, on comprend toujours avec le point de vue sexuel. Et c'est vrai, le don des corps au sens absolu, c'est ça. Et par le fait même, c'est une sensibilité, c'est donc un amour qui assume tout le corps, toutes les capacités du corps, et qui implique le don des conjoints, de l'époux et de l'épouse. La sexualité étant assumée par cet amour. Et c'est pour ça que le don des corps en lui-même a sa propre finalité. En lui-même a sa propre finalité d'amour. Mais il ne peut pas se séparer de la possibilité de la fécondité. Même si, de fait, on prévoit qu'il n'y aura pas de fécondité, parce que c'est une période où normalement il n'y a pas de fécondité, ou à cause de l'âge. Mais on ne peut pas intervenir volontairement. On doit laisser la nature à ses propres conséquences. Ça, c'est le don des corps au sens très fort. Il peut y avoir une intimité sensible qui n'implique pas cela. Et qui doit être, justement, pu. purifier, parce qu'on appellera le point de vue de la vertu de chasteté. La vertu de chasteté permet de plus en plus de faire le discernement entre le point de vue sensible et le point de vue sexuel. Et la vertu de chasteté demande de dominer le point de vue sexuel. Mais elle ne durcit pas notre cœur. Elle permet à notre sensibilité d'être chaste. C'est-à-dire de dominer toute l'attraction sensuelle, sexuelle, qui est normalement éveillée par le point de vue sensible. Il y a un lien, il y a une distinction, vous voyez, entre le point de vue sensible et le point de vue sexuel. Il y a quand même des liens. C'est sûr. On passe facilement de l'un à l'autre. Et la chasteté, la vertu de chasteté, fait le discernement. En disant non, mais pas au point de vue des gestes de tendresse, qui restent uniquement des gestes de tendresse, et qui ne glissent pas vers des gestes sexuels. Mais c'est très délicat, je sais très bien, mais je crois que philosophiquement, il faut voir la distinction. Et je dis philosophiquement et pratiquement, puisqu'on est en morale et en éthique. Il faut faire la distinction très nette. Autrement, on fait un mélange. Et c'est toujours de l'eau trouble. Autant la sensibilité peut être limpide, autant le point de vue sexuel est toujours plus pesant, plus lourd. Sauf quand il est assumé pleinement par le point de vue de la vertu de chasteté et qu'il est dans ce don de l'époux et de l'épouse. Alors à ce moment-là, il y a une purification qui va jusque du point de vue de la sensualité. Parce qu'elle est finalisée vers un bien supérieur. C'est toujours la même loi, vous voyez. L'amour ne peut être purifié que par l'amour. Ce que Saint Bernard nous dit et ce que Thomas d'Aquin dit, ça fait deux belles autorités. Et soi-même, on en a l'expérience. Je crois, si on est un tout petit peu lucide vis-à-vis de nous-mêmes, un tout petit peu lucide vis-à-vis de notre affectivité. Alors, il faut être limpide vis-à-vis de son affectivité. C'est nécessaire. Autrement, ça n'est pas humain. Notre affectivité doit devenir de plus en plus humaine. Et quand elle devient de plus en plus humaine, elle ne perd rien à sa qualité. Au contraire, elle est plus sensible. Parce qu'elle est assumée par quelque chose de supérieur. Dire que la sensibilité est moins sensibilité parce qu'elle est humaine, c'est faux. Il peut y avoir une sensibilité animale. La sensibilité de l'animal n'est pas assumée par une sensibilité spirituelle. La sensibilité d'un petit chat, la sensibilité du petit chien, c'est une sensibilité, ils sont sensibles ces petits êtres. Ils ne sourient pas, mais ils sont sensibles. Ils ne parlent pas, mais ils sont sensibles. Ils savent très bien que, quelquefois, on passe vite du sensible à l'irritation de l'irascible. Ça peut toujours arriver. Je parle au point de vue humain et le point de vue spirituel affine. Donc, il faut bien comprendre que plus on aime quelqu'un, plus on respecte cette personne. Et je crois que c'est ça la grande ligne de conduite. C'est ce respect vis-à-vis de l'autre, dans l'amour. Et par le fait même, on respecte une sensibilité qui n'est pas comme la nôtre. n'y a plus vertu de chasteté. On a beaucoup plus de peine à respecter. Parce que, par l'adoration, la vertu de chasteté prend toute sa force. Parce que l'autre a une âme spirituelle créée par Dieu. Son corps est habité par une âme spirituelle. Alors, parce que son corps est habité par une âme spirituelle, on respecte le corps de l'autre. Il n'est pas directement créé par Dieu, mais Dieu a créé en lui l'âme pour que ce corps soit habité par une âme spirituelle. Et donc il y a un respect toujours plus profond de l'autre et un respect de ce qu'il est dans sa sensibilité. Et donc c'est toujours dans une coopération. Toujours. Puisque l'amitié implique une coopération. On aime l'autre et l'autre même. Et c'est dans la sensibilité où l'altérité est la plus forte. Forcément. Puisque on est individualisé par notre sensibilité. Et donc, il faut là une coopération de plus en plus limpide et de plus en plus vraie. Parce que si on a affaire à quelqu'un qui est d'une terrible sensibilité, et à cause d'une éducation, sa sensibilité est très liée à ce point de vue sexuel, et il faut donc respecter l'autre et ne pas abuser de lui. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important à comprendre, que la coopération dans l'amour, d'amour, d'amitié doit toujours être présente. On doit toujours respecter infiniment l'autre, même si on ne comprend pas. Parce que ça, on peut très bien ne pas comprendre. Ce n'est pas la compréhension qui fait la coopération. La coopération se fait du côté affectif, donc du côté passionnel, comme du côté volontaire. Une coopération et une harmonie. Alors vous voyez, c'est là où on voit très bien que dans l'homosexualité, on ne fait pas cette distinction. Et c'est là, je crois, qui permet au point de vue humain et au point de vue éthique humaine de comprendre que c'est quelque chose qui va contre l'amitié humaine. Parce que ce n'est plus seulement un don des corps au plan sensible, c'est un don des corps qui implique le point de vue de la sexualité. Là, encore une fois, faisons attention, là, on donne des principes. N'oubliez pas que dans l'ordre pratique, il y a toujours une très grande diversité. Dans l'homosexualité, il y a l'homosexualité habituelle, et puis il y a tout un point de vue esthétique très différent, qui n'est pas nécessairement très vertueux. Et l'homosexualité telle que Platon la voit, c'est un point de vue très esthétique. Et l'homosexualité qu'on voit habituellement, qu'on connaît dans toute chute de civilisation, il y a toujours ça. Parce que justement, on confond sensibilité et sexualité. Est-ce que Freud lui-même va dans ce sens-là? Alors, s'il y avait des questions plus précises, au point de vue philosophique, je crois qu'on doit aller jusque-là, on doit dire cela, en comprenant que chaque cas est unique. Comme tout le temps quand il s'agit de l'amour. On ne peut pas universaliser l'amour. C'est toujours personnel et individuel. Ce qui fait que on doit toujours être très respectueux. Parce que l'amour se vit toujours d'une manière personnelle et individuelle. Et certains gestes qui peuvent très bien ne pas scandaliser certains peuvent scandaliser d'autres. et on doit toujours être responsables les uns des autres. Et donc on doit avoir cette simplicité et cette vérité de pouvoir être mutuellement gardien du respect du corps de l'autre. Pouvez-vous aussi nous parler du don de la sensibilité dans un mot d'amitié en dehors du mariage? Alors voyez, c'est l'application. L'amour d'amitié, je vous le disais tout à l'heure, implique essentiellement la sensibilité. Il n'y a pas d'amour d'amitié entre hommes et entre hommes et femmes sans la sensibilité. C'est impossible autrement. Parce que l'amour spirituel est l'amour de la personne, du sujet, dans son identité, dans son unité. Et donc, il implique la sensibilité. Mais cette sensibilité demande d'être toujours soumise et humanisée, donc spiritualisée par l'amour spirituel. Autrement, c'est une passion animale. Vous voyez bien. C'est le plus humain. Mais l'amour d'amitié exprime quelque chose d'humain. Autrement, on parlerait de la passion. Et alors là, on verrait tout de suite que la passion livrée à elle-même, je dis bien, a une opacité qui fait que c'est très difficile de discerner le point de vue sensible du point de vue sexuel. Au niveau passionnel, au niveau de l'amour d'amitié, oui, mais pas au niveau passionnel. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, vous voyez, sensibilité, je dirais, distinguons dans l'ordre de l'exercice une sensibilité assumée par un amour spirituel et ici par une attitude religieuse. Un respect qui est dominé par une attitude religieuse. Ce n'est pas un acte de religion, puisque c'est un acte d'amitié humaine. Mais la vertu de religion exerce une influence sur cet amour d'amitié, en le purifiant et en mettant une note très particulière vis-à-vis point de vue spirituel. Donc il y a une sensibilité humaine assumée par le point de vue de l'appétit spirituel, lui-même transformé par le point de vue religieux. Et il y a une sensibilité livrée à elle-même. Alors je dirais, l'amour d'amitié n'implique pas cette sensibilité livrée. Au contraire, pour que l'amour d'amitié puisse s'exercer vraiment, elle réclame cette purification de la sensibilité et de la passion. Puisque sensibilité affective égale passion. Il peut se faire, c'est très vrai, là ça existe beaucoup, beaucoup trop qu'on ne pense, il peut se faire que des êtres qui sont entièrement passion, sans aucun sens spirituel, prétendent s'aimer d'un amour d'amitié. En réalité, c'est passionnel. Alors on voit tout de suite la différence. C'est que l'amour d'amitié est tout entier tourné vers le bien de l'autre, tandis que l'amour passionnel est toujours ordonné à ma propre jouissance. En langage psychologique, on dira l'un est oblatif, l'autre est captatif. L'amour spirituel et tout amour spirituel est oblatif. On s'offre. Et tout amour passionnel est captatif. ad intra, ad extra. Non, vous pouvez pas faire ça. C'est mêlé dans notre vie. Mais s'il faut avoir suffisamment de lucidité, faut pas accepter un amour passionnel qui ne soit pas lucide. C'est évident que de temps en temps on peut se laisser prendre comme une crise de colère. C'est pas lucide une crise de colère. Quoique ça peut être très lucide. Alors déjà c'est une colère complètement transformée par un amour spirituel. Je peux me mettre en colère vertueusement. Grâce à Dieu. Et mettre en colère vertueusement, c'est-à-dire cette colère est entièrement transformée par l'appétit spirituel. Et je suis lucide, et je sais. Et je sais jusqu'où je dois aller. Pour que l'autre comprenne. Parce que là, il s'agit que l'autre comprenne. J'ai d'abord été très bon, il n'a pas compris. Donc je vois, il faut mettre le point. Pas frapper, mais il faut mettre le point là, spirituellement. Il faut que les choses soient dites nettement. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, on est lucide dans son irascible. Et il faut l'être. Toute éducation, vous voyez, consiste à cela. Être lucide dans notre affectivité. Et être de plus en plus lucide dans notre affectivité. Ça ne consiste pas à supprimer notre affectivité, à supprimer nos passions, mais à les dépasser, à les orienter, à les finaliser. Et en les finalisant, les rendre beaucoup plus humaines, beaucoup plus vraies. Bon. S'il y avait encore des questions là-dessus, et des questions plus précises, vous pouvez toujours les poser, parce que ça fait partie de cette recherche philosophique. On est dans le concret, hein, en philosophie éthique. Dans un concret philosophique. Donc de réflexion philosophique. Voilà comment la vertu de religion ou l'adoration vient purifier est sûrement créé par Dieu. À quel moment c'est resté un secret? Et c'est peut-être ce que Dieu veut, que ça reste un secret. Pour que nous n'arrivions pas à séparer ce que Dieu unit. C'est très possible. Ce qu'on peut dire, et c'est le langage que le Saint-Père prend, et je crois que c'est tout à fait le langage qu'on doit prendre, que dès la conception, c'est un être humain. Et quand on dit dès la conception, c'est un être humain, ça ne veut pas dire que la personne humaine soit présente dès la conception. Personne humaine impliquant les différentes modalités de la personne humaine. C'est un être humain plein de promesses. C'est une espérance. Donc, impliquant des virtualités énormes. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on implique, ça implique des virtualités, que tout n'est pas en acte. Je sais que c'est délicat, parce qu'il y a certaines personnes tellement engagées dans le combat pour la vie contre l'avortement que la moindre petite précision qu'on fait pour eux, c'est comme si on enlevait le point de vue de l'âme. Et donc, s'il n'y a pas d'âme, on peut tout faire. C'est faux. C'est au niveau de la nature humaine qu'il faut regarder ça. On respecte la nature humaine dans sa petitesse. On sait que la nature humaine implique l'âme. Mais je ne sais pas à quel moment l'âme est créée. Mais je peux dire qu'elle est très vite créée. Oui. Mais je ne sais pas à quel moment. Exactement. Ça importe peu au plan moral. Vous comprenez bien, la faute est la même. Au plan moral, parce que vous allez contre l'ordre de la sagesse de Dieu, ce qui est primordial à affirmer. Et c'est ça qu'on oublie le plus. Et on regarde avant tout le point de vue du meurtre. Mais l'importance de l'intention du meurtre est capitale, puisque le péché est dans l'intention. Or, dans l'avortement, si on est conscient de ce que ça représente, on va contre l'ordre de la sagesse de Dieu. Et moi, ça me semble le premier élément qu'on doit rappeler. Alors, que ça se fasse très vite avec la pilule abortive, ou bien que ça se fasse un mois ou deux mois après, ça revient au même. Vous allez contre la volonté de Dieu. Et je crois que on doit rectifier le point de vue moral aujourd'hui. C'est-à-dire le rappeler dans toute sa force. Ceci, c'est pour ceux qui ont une éthique religieuse, qui savent que Dieu existe, que Dieu est notre créateur et que Dieu a créé l'homme. Pour ceux qui rejettent Dieu, on doit dire, c'est le raisonnement, je crois, qu'on doit prendre. Qu'on doit respecter la nature humaine dans son intégrité. Or, la nature humaine dans son intégrité implique la fécondité. Et donc, on l'arrête au point de départ, ou un peu plus tard. C'est la même chose. On va contre la nature humaine. Parce que vous n'êtes pas maître de votre nature. Vous l'avez reçue. Personne d'entre nous n'oserait dire, comme Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas ? Je suis le modèle de la nature humaine. Regardez-moi bien, vous comprendrez ce que c'est de la nature humaine. Non, nous participons à la nature humaine. Et notre nature humaine nous est donnée. Et nous la respectons. Et nous la respectons dans son intégrité. Parce que si on ne la respecte pas dans son intégrité, on ne la reste pas du tout, on ne la respecte pas. Et je crois que c'est très juste. Et plus elle est faible, plus on doit la respecter.